Je pense que ce qui est vraiment super important, c'est de se faire confiance en tant que parent. Parce qu'on sait ce qui est bien pour nos enfants. Il y a des fois où on va se tromper, comme tout le monde, c'est normal. On apprend à être parent en même temps qu'on l'est. On n'a pas appris avant, puis après on maîtrise tout. On apprend tout sur le tas. Donc il y a plein de fois qu'on va expérimenter les choses pour se rendre compte que ben, ça marche pas. C'est pas grave. On va juste changer de direction en fait. Mais faites ce que vous sentez à l'intérieur, vraiment au niveau du ressenti, là, pas de votre tête, qui est juste. Parce que quand on écoute cette petite voix intérieure, ben, en fait, on ne se trompe pas. Même si ça fait peur, même si ça va à l'encontre de ce que les autres pensent ou de ce que les autres font, en fait. Parce qu'on est plus à même de savoir ce qui est juste pour nos enfants. Et l'autre famille.
Bonjour, je suis Jannick Bizel-Ménétré, médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui Parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles pour une étape de vie singulière. Bonjour Nathalie.
Salut.
Quel lien entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents?
Je dirais un lien d'adulte à adulte. Pendant longtemps, j'étais la petite fille à mes parents, je pense même adulte, avec un regard un peu idolâtre, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je pense que j'idolâtrais leur couple, puis qu'ils étaient chacun. Et je me suis détachée de tout ça, je pense avec l'arrivée de mes enfants, où on a plus commencé à entretenir un lien d'adulte à adulte plutôt que d'enfant à parent. Mais je pense que comparé à la majorité des gens, on est plutôt proches, parce qu'on habite au même endroit, enfin, pas la même maison, mais au même village. Et on se voit toutes les semaines, plus ou moins.
Et puis, qu'est-ce que tu t'es rendu compte quand tu as cessé d'idolâtrer tes parents?
Bah, qu'ils avaient des défauts, déjà. Comme tout le monde.
Tu les voyais pas avant?
Non, pas forcément, non. Non, je pense que j'avais une vue très déformée. Alors, peut-être que c'est normal pour les enfants d'idolâtrer leurs parents, je sais pas. Je pense pas aussi tard, par contre. Mais vu que j'ai pas fait d'adolescence vraiment dans l'opposition, je pense qu'il m'a manqué une étape, justement, que j'ai peut-être fait plus tard.
Ok, donc cette opposition, tu l'as eue quand tu as eu tes enfants, c'est ça? Ou est-ce que c'est manifesté ou pas?
Non, pas vraiment. Mes parents, ils sont les deux dans le développement personnel et ils ont commencé ça quand j'étais adolescente. Alors, par contre, là, je me suis mise en opposition avec tout ce qu'ils étaient en train d'explorer, clairement, ce que mes frères n'ont pas fait. Donc, j'étais en opposition vraiment sur ce sujet-là, mais pas du tout dans la rébellion ou dans le conflit ou quoi que ce soit, en fait.
Ça veut dire quoi? Tu étais en opposition, tu faisais quoi?
C'est dire que quand ils me parlaient de leurs histoires, peu importe en lien avec quoi,
C'était nul,
c'est
c'est ça?
ça. Ah, ça me saoulait. J'étais arrêtée de me saouler avec vos histoires et c'est vrai que j'adhérais pas du tout en fait à ce qu'ils racontaient.
Et aujourd'hui?
Ben, beaucoup plus, mais par mon propre cheminement. C'est pas que parce qu'ils ont fait un truc que je vais adhérer, en fait, c'est plus mon propre chemin qui m'a amené à certaines choses qui au final se regroupent avec, et se recoupent avec ce que eux ont fait.
Et tu vois, c'est intéressant parce que tu me causes que tu idolâtrais tes parents. T'as eu quel âge quand tu as eu tes enfants?
La première, 26.
Oui, donc ça veut dire que tu me dis, je me suis comme réveillée de cette, je sais pas comment on dit, idolâtrie, je sais pas
Ouais,
comment on
je
dit,
pense.
lorsque mon enfant est né, mon premier enfant est né. Et puis là, en même temps, tu me dis que quelque part, enfin, il y a un truc qui un truc qui manque dans le sens que moi, si j'idolâtre quelqu'un,
Je vais croire à tout ce qu'il croit.
j'aurais tendance à être en accord avec ce qui se raconte, tu vois.
Alors peut-être que, pour être plus juste, je pense que j'idolâtrais leur couple et leur manière d'avoir géré leur famille. Peut-être c'est plus juste de dire ça.
D'accord.
Et que en ayant des enfants, ben j'ai fait différemment en fait. Sans dire que ce qu'ils ont fait c'est pas bien, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Mais juste que je me suis peut-être détachée de certaines choses qu'on m'avait transmises.
D'accord.
En fait, c'est plus qu'en ayant des enfants, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ce que je souhaitais transmettre. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui pour moi étaient évidentes que j'allais automatiquement reproduire.
Tu peux m'en dire plus?
Là, l'idée qui me vient, c'est une idée un peu Voilà, c'est un sujet un peu spécial, mais c'est les vaccins.
Ah.
Par exemple, ben, mes parents ne sont pas vaccinés. Enfin, moi, oui, parce que je suis l'aînée, mais mes frères, non, parce qu'ils se sont réveillés entre deux, on va dire ça comme ça. Et ben, pour moi, c'était évident que le jour où j'aurai des enfants, je ne les vaccinerai pas. Parce que j'ai été éduquée là-dedans, en fait. Ils les soigneraient à l'homéopathie, par exemple. Et le jour où j'ai été enceinte de ma première fille, ben, il fallait déjà discuter avec mon conjoint pour qu'on se mette d'accord, hein, parce qu'il n'a pas eu la même éducation. Et j'ai eu besoin de lire, en fait, d'aller chercher des informations par moi-même pour me faire ma propre opinion du sujet. Alors qu'avant d'être enceinte, pour moi, c'était une évidence. Tout d'un coup, ben, ça a remis en question ces évidences qui étaient liées à mon éducation, où j'ai besoin d'aller, ouais, d'aller chercher mes propres informations pour me faire mon propre opinion. Que ça soit le même ou que ça soit une opinion différente, c'est pas ça, en fait. Mais c'était juste de me faire mes propres opinions.
Oui. De ne pas tout croire parce que ça a été transmis comme ça. C'est un petit peu comme ma fille, là, dernièrement. Un autre sujet complètement... Elle me dit, mais maman, pourquoi tu dis toujours que quand on a râpé des carottes, il faut les manger tout de suite et que les carottes râpées, ça ne peut pas attendre. Et puis là, je me suis gratté la tête, puis je lui ai dit, bah, en fait, j'ai toujours entendu ça de ma grand-mère. Et je n'ai jamais remis en question, en fait, la parole de ma grand-mère. Des carottes râpées, ça se mange tout de suite. Donc, on les râpe et on les mange. On ne les laisse pas traîner deux jours dans le frigo. Et puis, on discutait de ça avec ma cousine et elle me disait la même chose, en fait. Les carottes râpées, ça se mange tout de suite. Donc, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée, en fait, ce que tu exprimes, toi, par rapport à cette histoire de vaccin, mais ça aurait pu être autre chose, j'imagine. C'est ça que tu dis, en fait.
C'est qu'effectivement, on reproduit beaucoup de choses, et je m'en rends compte encore avec mes enfants qui grandissent. Encore dernièrement, je parlais avec une de mes amies, et on parlait à table, ce qui était important pour nous. Puis elle disait, pour moi, c'est insupportable que mes enfants commencent à manger avant que je me sois assise. Et c'est une règle qu'ils ont mis en place chez eux. Et je disais, ben, pour moi, ça, c'est totalement insignifiant. Mais effectivement, je n'ai pas souvenir que dans mon enfance, ça avait de l'importance. Où elle parlait de mettre les coudes sur la table. Ah ben, nous, on n'avait pas le droit de mettre les coudes sur la table. Eh ben, je reproduis ça avec mes enfants. Idem, pour moi, ça a zéro importance. Donc, c'est là qu'on voit qu'on reproduit facilement des choses qu'on nous a transmises. Et remettre en question une partie, alors je pense que c'est tout à fait sain, même de remettre en question beaucoup pour se faire d'autres propres opinions. Mais qu'il y a plein de choses qu'on fait sans même réfléchir et inconsciemment, en fait. Mmh. Et je pense que mes enfants, ça m'a vraiment aidé à observer puis se dire, ouais, ben en fait, ça, j'ai envie de faire, ça, j'ai pas envie de faire. Ou comment j'ai envie d'être. Pas forcément comme mes parents ou en opposition à mes parents, parce que je pense que d'être parent en opposition ou à nos parents, c'est pas non, forcément non plus une bonne stratégie. Mmh. C'est mieux d'être parent pour nos enfants que pour ou contre nos parents. Mais ça m'a demandé de beaucoup m'affirmer dans, en fait, qu'est-ce que j'ai envie, moi. Ce qui était déjà une grosse question, parce que c'était une question que je ne m'étais jamais posée avant d'avoir des enfants. Et ensuite, ben, ce que j'ai envie, moi, ben, si ce n'est pas comme mes parents, ben, d'aller leur dire, en fait, j'ai envie de faire différemment, puis je veux que vous respectiez ça.
Oui, une affirmation de toi, en fait.
Clairement.
Quand tu t'entends parler, tu n'entends pas quand même combien tu t'es positionnée déjà depuis l'adolescence face à eux. C'est-à-dire, j'ai pas été en opposition par rapport à dans mon adolescence.
Dans le sens, comme on l'entend d'un adolescent, tu vois, ce stir de crise d'adolescence, de faire des bêtises, je me sens entre guillemets bêtises. Hein. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai fait, en fait. Moi, j'étais mature très vite, je pense.
Ouais.
Il a manqué une partie d'exploration, peut-être, qui est propre à l'adolescence. Mais indépendamment de mes parents, là, ça n'a rien à voir avec mes parents.
Mmh. Oui, c'est par rapport à toi, moi, et à ton caractère, et à qui tu es. Mais tu vois, moi, j'entends quand même que tu t'es positionnée assez jeune, dans le sens que tu t'es... t'as pas non plus voulu gober tout ce qu'il voulait te faire peut-être expliquer ou peut-être te faire ingurgiter au moment de l'adolescence, quand eux, ils ont commencé à cheminer d'une autre manière.
Oui, alors clairement. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je suis partie assez jeune de la maison, parce que j'ai quitté la maison à 19 ans. Mmh. Et à ce moment-là, ben, c'était... important pour moi de mettre de la distance.
Mmh. Ouais. Et comment ça te sert, en fait, toutes ces prises de conscience que tu as faites depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours, enfin, en tout cas, depuis un moment là maintenant, parce que tu as deux enfants. Ils ont quel âge, tes enfants?
Bientôt 11 et 9.
Mmh. Donc du coup, à quoi ça te sert aujourd'hui d'avoir fait ce cheminement, d'avoir finalement osé penser par toi-même, osé remettre en question, osé aller chercher, tu vois, d'être sorti un petit peu des rails.
Je pense que ça me sert vraiment au quotidien avec mes enfants, parce que je pense sincèrement qu'on n'est pas une famille dans la norme, on va dire ça comme ça. On a fait plein de choses qui étaient un peu hors du cadre, comme par exemple les sortir de l'école. Et c'est une de mes valeurs pour moi qui est hyper importante pour moi et de transmettre à mes enfants, c'est l'esprit critique. J'ai vraiment à cœur qu'elles puissent justement pas gober tout ce qu'on leur dit, nous hein, en tant que parents, mais aussi les autres, même l'école par exemple, et qu'elles puissent avoir un esprit critique, puis se dire, est-ce que je pense que ça c'est vrai, est-ce que je pense que ça c'est pas vrai, qu'est-ce que moi j'ai envie de croire par rapport à ça, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'elles sont très sensibilisées à ça.
Ouais, tu causes de la position, en fait, hein, d'une position dans la vie, en fait. De ce que tu es en train de dire, si j'entends bien, c'est que toi, tu as à cœur de qu'elles soient debout dans leur vie.
Actrice, en tout cas, et pas passive, clairement. Ouais. J'ai pas envie qu'elles subissent. Et j'ai envie qu'elles sachent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, en fait. Peu importe ce que les autres pensent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à la maison, qu'elles n'ont pas besoin de faire comme les autres, en fait.
Ouais.
Si c'est pas juste pour elles, ben c'est OK.
Puis en fait, ce que tu es en train de dire, c'est dans le respect et l'éthique. Tu vois, parce que faire ce qu'elles veulent...
Dans le respect, bien sûr, de chacun, on est d'accord.
On pourrait tout entendre, donc...
Non, moi, c'est par rapport à elle-même. Non, on est d'accord qu'il y a quand même un cadre à respecter partout, à l'école, à la maison, etc. Mais c'est que chez nous, par exemple, elles vont beaucoup négocier. Parce que si pour elles, c'est pas cohérent et qu'on ne comprenne pas quelque chose, elles vont juste pas le faire, en fait. Et je pense que ça nous complique notre vie de parents, parce que ce serait plus simple si elles obéissaient sans se poser des questions. Mais je pense qu'on leur donne des super outils pour l'avenir, en fait.
Oui.
Donc je vois plus long terme que court terme.
Et du coup, c'est quoi ces négociations qu'elles pourraient faire ?
Alors, en ce moment, elles négocient beaucoup pour avoir un attel. Bon, alors, elles sont mal barrées, elles ne sont pas prêtes d'en avoir un. C'est de trouver des bons arguments. Mais ça peut être pour tout. Le moment où elles font leurs devoirs, comment elles font leurs devoirs, ça peut être sur le planning de la journée, ça peut être sur beaucoup de choses.
Tu as une anecdote à nous partager, concrète, qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent là, en ce moment ?
Alors, il faut que je réfléchisse comme ça, il n'y a rien qui me vient, parce que dernièrement, là, récemment, il n'y a pas eu de...
Tu me parlais, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu me parlais de l'histoire du moment de faire les devoirs et de l'interrogation qu'il y avait le lendemain et de la manière dont le devoir était préparé, tu te rappelles ?
Ah oui, bon, ça me revient. Ouais, effectivement. Donc, de prendre le reste... Pour moi aussi, avoir... l'esprit critique, puis être acteur dans notre vie, c'est aussi prendre les responsabilités qui vont avec ça. Donc l'exemple que tu dis là, je pense que c'est ça, c'est quand ma grande n'avait pas fait ses devoirs et qu'elle ne voulait pas les faire. Et du coup, moi j'ai dit, c'est quoi la conséquence si tu vas à l'école sans faire tes devoirs ? Et elle m'a dit, c'est pas grave, parce que la première fois, c'est juste un avertissement. C'est que la deuxième fois, en fait, qu'on a une punition. Donc en gros, c'était pas grave de ne pas les faire une fois parce qu'il n'y avait pas vraiment de conséquences. Et puis, par exemple, là, je me suis dit, elle va assumer son choix. OK, je ne vais pas inciter pour qu'elle fasse ses devoirs. Elle ne les fait pas, puis elle verra la conséquence à l'école. Donc, par exemple, ça, c'est le jour de négociation qu'on peut effectivement avoir.
Alors, c'était encore un autre exemple que tu donnais. C'était sur le fait que tu me disais, par rapport à toi, en fait, la manière dont tu aurais... Si c'était toi qui avais un examen le lendemain, le souci que tu avais, en fait, plutôt au niveau de la perfection, puis c'était par rapport à ça, tu te rappelles ?
Alors oui, effectivement. Pour moi, quand elle me dit qu'elle est prête pour un test, personnellement, au fond, j'étais plutôt perfectionniste quand même. J'estime que moi, à sa place, je ne me sentirais pas prête pour mon test. Clairement. En même temps, ça passe. Mais là, je lâche complètement parce qu'en fait, c'est sa vie, c'est ses tests, c'est son école. Donc si, peu importe, je dis un exemple, c'est pas son cas, mais si elle a avoir 4 partout, ça lui suffit, je vais pas m'exciter pour qu'elle ait 5 ou 5,5 ou 6. Parce qu'en fait, elle doit vivre son truc à elle, en fait. Et j'ai pas envie de vivre un conflit perpétuel à la maison pour quelque chose qui est important pour moi, puis qu'il n'est pas pour elle.
Oui. Ça demande beaucoup de sagesse, en fait, hein, de prendre du recul et d'observer nos peurs. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Les peurs qui nous appartiennent à nous en tant que parents, et de laisser l'enfant vivre ce qu'il a à vivre, et de, quelque part, de subir, entre guillemets, les conséquences qu'il risque de subir suite au comportement qu'il aura. C'est ça que tu dis, hein ?
Clairement. Pour moi, ouais. Souvent, on laisse nos peurs nous diriger, et principalement avec nos enfants, parce qu'on a peur qu'ils vivent quelque chose qu'on a vécu.
Ouais.
Ou parfois, ça n'a même rien à voir avec ce qu'on a vécu, mais qu'on a vu d'autres personnes vivre. Par exemple, là, je pense au harcèlement ou des choses comme ça. C'est une grande peur, je pense, des parents de notre génération. Et on va projeter des choses chez nos enfants qui, eux, vivent les choses juste différemment. Et ça me fait penser à un autre exemple. C'est que mon aîné, justement, qui est entré en pré-secondaire, un petit peu comme ça, après 3 ans d'école à la maison, elle s'habillait. C'est vraiment quelque chose... La mode, ça ne l'intéresse vraiment pas du tout. Elle, le principal, c'est le confort. Donc, elle va avoir que les habits confortables. Et quand elle a un habit qu'elle aime bien, elle va le garder très longtemps, même quand il est vraiment beaucoup trop petit. Donc, en ce moment, elle va à l'école avec l'eau à la cave tout le temps. Et vraiment pas habillée comme les autres enfants de son âge. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que les autres qui se moquent de toi, parce que tu t'habilles comme ça, est-ce que ça te dérangerait? Donc, je l'ai un peu questionnée. Je lui ai demandé, ben, si elle a envie de changer de style vestimentaire. Puis, ben, pour elle, elle m'a répondu non à tout, en fait. Pour elle, c'est pas important. Alors que sa sœur, qui a 2 ans de moins, c'est hyper important. Elles sont totalement différentes. Mais là, j'ai eu besoin de lâcher ce truc où, en fait, elle augmente les chances qu'on se moque d'elle.
Ah, oui.
Parce que c'est ma peur à moi, en fait, puis c'est pas la sienne.
Oui. Ouais. Et puis lâcher le regard aussi, j'imagine, des autres.
Et elle, alors, ça pour moi, je suis très fière de ça, c'est qu'elle s'en fout complètement du regard des autres, en fait.
Et puis toi?
De plus en plus. Non, vraiment, ça, je pense que... Peut-être beaucoup moins plus jeune, mais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment... D'ailleurs, si on reparle d'autres anecdotes, ce matin, j'ai amené mes filles à l'école. Elles m'ont demandé, parce qu'il pleuvait très fort, puis il y avait beaucoup de vent, et que je ne les vois pas pendant 24 heures, donc j'ai accepté. Ça, c'est typiquement de la négociation. Normalement, je ne les amène pas à l'école. Et je ne me suis pas habillée avant d'y aller. Donc j'ai un sorte de gros pyjama, une pièce licorne, voilà. Donc j'ai mis juste ma veste par-dessus, mais j'avais quand même le capuchon qui sortait avec les petits dessins, la queue qui pendait sous la veste, en me disant je ne vais pas sortir de la voiture, donc ça n'est pas grave. Et donc elles partent les deux de la voiture, je dis bon je ne sors pas vous dire au revoir, hein, parce que quand même. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de leur dire où elles allaient à midi. Donc je suis sortie en courant
avec ta queue qui
avec ma queue qui pendait, pour les rattraper, pour leur dire où elles devaient aller à midi. Franchement, je rigolais toute seule dans ma voiture après. Mais ça me fait rire en fait. Je m'en fiche complètement.
T'as croisé quelqu'un
peut... Ben, bien sûr, plein de gens. C'était pile l'heure où tous les enfants arrivent à l'école. Donc j'ai croisé beaucoup de monde. Mais je m'en fiche, vraiment. Ça m'a juste fait rire.
La prochaine fois, tu prendras encore une baguette magique dans ta main. Comme ça, t'auras l'heure.
Je me suis dit, ben, ça a fait ma journée quoi. Je me suis tellement marrée ce matin. C'est bon, j'ai le rire plein pour la journée. Mais voilà, ça me pose zéro problème, en fait. Et enfant, adolescente, j'aimais provoquer ça. Le ridicule. J'assumais pleinement que c'était moi qui le choisissais. Par contre, j'assumais beaucoup moins si c'était involontaire. Alors que maintenant, j'assume de plus en plus tous les aspects, en fait.
T'aimais provoquer le ridicule en étant enfant?
Alors, pas forcément beaucoup, hein, mais j'aimais bien. J'adorais faire des sketchs où je faisais des personnages complètement aberrants... Je suis allée à l'école avec un marsupilami géant. Je me rappelle une fois pour un exposé, on s'est baladé dans tout le village avec ma copine, avec d'autres marsupilamis. Enfin, j'ai fait des choses comme ça où je savais que j'allais attirer le regard et être ridicule. Ça ne me posait pas du tout de problème parce que je l'avais choisi.
Ouais.
Aujourd'hui, j'ai choisi, je pense, d'être hors norme, si on peut dire ça comme ça, de sortir du cadre de la norme. Et je l'assume aussi à 100%.
Oui. Oui, parce que tu disais avoir retiré tes enfants de l'école. Tu les as retirés à quel moment, l'école?
Ben, 2020.
Ah, ouais.
Ouais, c'est l'expérimentation, on va dire, du pseudo-confinement suisse, où j'ai adoré, en fait. On a tous les quatre adoré cette période de se retrouver les quatre tout le temps ensemble.
Oui.
Et surtout, j'ai vu une vraie différence dans le comportement de mes enfants quand il n'y a plus d'école.
C'est-à-dire ? Tu peux m'en dire plus ?
Il y avait beaucoup moins de conflits entre les deux, vraiment. Et c'était tellement plus détendu, quoi. Tout était plus facile. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à avoir une réflexion sur, quand on parle d'esprit critique, c'est aussi ça, sur pourquoi en fait elles subissent ça ? Est-ce que c'est OK vraiment que des enfants de cet âge-là vivent ça ? C'est toutes des questions qu'au final on ne se pose pas parce que ça fonctionne comme ça chez nous. Puis on se dit, on fait parce que tout le monde fait.
Quand tu dis ça, c'est quoi ?
Je parle de l'école. Alors moi, c'était le rythme, clairement.
Le rythme.
Je trouve pas que ça soit adapté à un enfant. À l'époque, ma fille, elle est en première, donc elle avait 5 ans. Qu'un enfant de 5 ans, ils doivent partir à 8h moins quart tous les matins pour marcher 25 minutes jusqu'à l'école et ainsi de suite. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas adapté. Est-ce que moi, déjà, je fais pas ça pour aller travailler ? Donc pourquoi je fais subir ça à mon enfant de 5 ans, par exemple ? Donc il y avait ce truc, déjà, principalement du rythme.
Oui.
Et après, il y avait aussi ce côté un peu, est-ce que j'ai envie qu'elle soit enfermée dans des cases, même si c'est pas forcément ça à l'école, mais quand même un peu de ça. Donc c'était toutes ces réflexions que j'ai commencé à avoir, que j'avais déjà eues un petit peu avant en fait, mais qui s'est accentuée en expérimentant autre chose. Je me suis dit, mais en fait, j'ai le choix. On pense souvent qu'on n'a pas le choix, mais si, en fait, je l'ai. Donc, j'ai envie d'essayer autre chose.
Oui.
Sans certitude que ça sera mieux, en fait. C'est juste tester autre chose, puis on explore et on avise.
Puis du coup, alors ça s'est passé comment ?
Pour les sortir, tu parles, ou les 3 ans d'école à la maison ?
Les sortir, j'imagine que tu as contacté le service d'enseignement, même pas ?
C'est très, très facile. C'est juste une petite lettre pour dire que nos enfants feront l'école à la maison, puis c'est réglé.
Mais ça, t'habites, il y a...
Je précise.
Parce que dans notre canton du Valais, c'est plus compliqué. Mais après, comment ça s'est passé concrètement ? Tu recevais des... par rapport au programme, tu avais quand même un programme à suivre ou
Alors non, alors je pense que c'est pas vraiment valorisé l'école à la maison, donc c'est débrouille-toi. Donc il y a un site internet avec le père, donc le programme d'école ou d'éducation.
D'enseignement,
c'est ça, exactement, qui est la même chose pour tous les cantons. Puis on va essayer de comprendre ce qui est écrit dans le père, autant dire que c'est pas simple, c'est assez, on va dire, académique. Donc on se débrouille en fait, on doit se débrouiller pour que nos enfants... et le niveau, on va dire, à la fin de l'année, quoi.
Puis après, ils passaient les mêmes examens que les autres, c'est ça ?
C'est ça. Après, il faut savoir que les examens, il n'y en a pas du tout toutes les années.
Oui.
Chez nous, c'est à fin de la 4e, fin de la 6e. Après, je les ai remis à l'école. Donc, elles ont dû passer leurs examens de 4 et de 6, effectivement.
Ouais, ça et veut dire tout. Que tu les as gardés 3... Tu as fait 3 ans de scolarité à la maison, en fait.
Exactement, ouais.
Puis, tu organisais comment tes journées ? Ou leurs journées, plutôt ?
Chez nous, on n'a pas trop organisation. Enfin, il y a de l'organisation, mais aussi beaucoup de flou. On peut faire ce qu'on veut, on va dire ça comme ça. Donc, ce que j'ai testé plusieurs choses avant d'arriver à ce qu'on a fait au final pendant 2 ans et demi, c'est que je préparais, moi, le programme de la semaine. C'est-à-dire qu'elles avaient un document Excel sur lequel je notais tout ce qu'elles devaient faire d'ici la fin de la semaine. Il y avait des colonnes par jour, lundi, mardi jusqu'à vendredi. Et elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, en fait.
Ah, elles choisissaient, en fait.
Ce qu'elles avaient envie de faire, et après, elles allaient cocher ce qu'elles avaient fait. Et je peux te dire qu'il y a des fois, il y a eu plusieurs semaines où elles se disaient « Ah, mais j'ai tellement envie d'avoir plein de jours de congé. » Donc, elles faisaient tout le lundi, mardi. Comme ça, après, elles avaient 5 jours de congé. Puis, à d'autres jours, au lieu d'autres semaines, on se disait « Je profite d'aller voir mes grands-parents qui habitent sur Neuchâtel, par exemple. » Donc, ce jour-là, on ne fait pas du tout d'école. Puis, c'est pas grave, on en fait plus un autre jour.
Ouais.
Donc, ça a permis une énorme flexibilité.
Et puis, du coup, là, le retour à l'école... C'est parce qu'elles ont repris cette année, cette rentrée scolaire-ci. Ça s'est passé comment ? Ça se passe comment, vu qu'il y a un trimestre qui est déjà presque... un mi-trimestre, ouais.
Ouais, il y a eu déjà 8 semaines.
Ouais, 8 semaines, ouais.
Écoute, relativement bien, en fait. Moi, je m'étais préparée à... Il y aura besoin d'adaptation, et ça risque de ne pas être hyper facile pour elles... Et pour moi, à la maison, parce qu'elle risque de décharger à la maison, tu vois. Et au final, oui, bien sûr qu'il y a eu un peu de décharge à la maison, mais moins que ce que je m'attendais.
Oui.
Et là, je vois qu'elles sont dedans comme si elles avaient toujours été dedans, en fait.
Et puis le niveau, elles étaient au même niveau que les autres ou...
Alors, clairement, il n'y a pas de problème niveau. C'est presque... Elles sont presque en avance, je dirais. Donc ça, il n'y a pas du tout de souci. Oui. Malgré le fait qu'au final, on faisait 4-5 heures d'école par semaine, tu vois. Donc, c'est clair que pour ça, ça leur change beaucoup, parce qu'elles sont passées à plus que ça par jour. Donc,
oui. Et là, elle supporte.
Alors, elle supporte, parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix aussi. C'est vrai qu'elles m'ont posé des questions. Alors, il y en a une des deux qui voulait recommencer l'école, donc pour elle, voilà, il n'y a pas de souci, elle adore ça.
C'était la grande, l'aînée ou bien
non, la petite. La petite, elle voulait y retourner, donc elle adore l'école. Elle était triste d'être en vacances, par exemple, en octobre. Mmh. Et la grande, elle n'avait pas du tout envie d'y retourner. Et ce qu'elle m'a dit, c'est « Maman, tu sais, moi, j'ai déjà fait 3 ans d'école, donc je sais comment c'est. Ma sœur, elle se réjouit parce qu'elle ne sait pas comment c'est. Elle n'a fait qu'un an. Je pense qu'elle avait un peu de vrai la meilleure. » Et elle m'en a voulu, je pense. De pourquoi je l'ai remise là, en fait. Mmh. Parce que je pense que le temps libre lui manque.
Oui. Mmh. Et pourquoi, finalement, tu as choisi de les remettre là, à ce moment-là?
C'était principalement lié à la grande, en fait, au fait qu'elle entrait en 7e, 7H. C'est les 2 ans de transition chez nous, sur le canton de Vaud. Il y avait l'anglais qui allait s'ajouter, donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de nouvelles matières. Le niveau de complication augmentait quand même un petit peu. Mmh. Et franchement, ces 3 ans, ça a été que du plaisir. J'ai adoré faire ça. Pour moi, c'était 100% OK. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble et c'était vraiment chouette. Mais je n'avais pas envie justement qu'on parte sur quelque chose qui ne soit pas positif. Et je me suis dit, si d'un coup, on doit doubler les heures qu'on fait d'école, ça ne reste pas beaucoup comparé aux enfants qui vont à l'école, on est d'accord. Mais je ne suis pas sûre que ça reste du plaisir. Donc, je n'avais pas envie de passer par une étape où on est dégoûté. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était quelque chose qui n'est pas rationnel, c'était que je sentais que c'était le moment. Comme j'ai senti que c'était juste les enlever, là, je sentais que c'était juste les remettre. Tout en sachant que peut-être qu'un jour, on y ressortira. Je ne me suis jamais dit, à aucun moment, je me suis dit, cette décision, elle est pour tant de temps. Ça a toujours été, on avise au fur et à mesure. Quand je les ai sortis, et là, en les remettant, c'est la même chose. Peut-être qu'on décidera de les ressortir. Peut-être qu'elles iront tout le temps à l'école. On verra bien en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on a envie, de nos projets.
Et là, par rapport aux contacts sociaux, par rapport aux autres enfants, ça s'est passé comment?
Alors, c'est assez surprenant, mais le fait de les sortir de l'école, ça a augmenté la manière dont elles étaient à l'aise avec les gens.
La manière, j'ai pas compris.
Dont elles étaient à l'aise avec les gens. Alors, nous, on est plutôt une famille d'introvertis, d'accord? Et ma grande, elle est beaucoup comme moi, bien introvertie. Et c'est vrai qu'elle avait, même avec des gens qu'elle connaissait très bien, il lui fallait toujours beaucoup de temps d'adaptation, même ses oncles ou comme ça. Et le fait de la sortir de l'école, qu'elle a plus que côtoyé les gens qu'elle avait envie de côtoyer, on va dire, avec qui elle s'entendait, ses copines avec qui elle s'entendait bien, pas les gens qu'on est obligé de côtoyer à l'école et qui on ne s'entend pas forcément, c'est comme si je lui ai permis de prendre confiance dans ses compétences sociales, je pense.
Tout à fait.
Et ça a amélioré clairement ses compétences sociales. Donc c'est l'effet complètement inverse que ce qu'on peut s'imaginer.
Je l'ai déjà entendu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'école à Paris? Le nom m'échappe maintenant, évidemment. Caroline Sost, ça dit quelque chose. Living School.
Non, je connais pas.
Alors, voilà. C'est vraiment... J'ai une petite vidéo... où justement il y a des enseignants d'écoles alternatives qui témoignent. Il y a l'école du Colibri de Pierre Rabhi, par exemple. Et puis il y a Living School et il y en a d'autres. Et le constat des parents de ces enfants qui sont placés dans ces écoles où il y a beaucoup plus de pédagogie par des apprentissages qui se font à...
Tout seul, c'est que les bons mots, mais oui, voilà. Je vois ce que tu veux dire.
Un petit peu plus comme ça. Les parents disent, mon enfant qui était plutôt introverti s'est mis à parler avec des gens qu'il ne connaissait pas. Enfin, apparemment, la confiance en soi augmente et je pense que c'est lié à l'estime de soi, effectivement.
Moi, c'est ce que j'ai eu l'impression, c'est qu'il y avait ce respect de son rythme, de respect de comment elle fonctionne. Et du coup, elle avait pris confiance, effectivement, en elle et que ça... changer les interactions sociales. Alors, je ne te dis pas qu'elle est devenue extravertie, c'est de loin pas le cas, d'accord? Mais clairement, je vois que c'est plus facile pour elle qu'avant.
Elle est mieux dans sa peau, si
ouais, c'est ça que tu dis. Ça.
C'est magnifique ce témoignage que tu nous fais.
ça peut aider d'autres parents.
Du coup, tu as côtoyé d'autres parents qui étaient dans ce, aussi dans ce mode de fonctionnement, ou bien vous êtes un petit peu en lien, où il y a une...
Il y a plein de choses qui existent pour les parents qui font l'école à la maison, effectivement. On peut se regrouper, on peut se retrouver régulièrement, toutes les semaines, etc. Comme je disais, moi, je suis plutôt... je ne suis pas forcément introvertie, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'aime bien être dans mon petit cocon à moi. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup, vraiment très, très peu côtoyé les autres parents qui faisaient ça. Je l'ai juste côtoyé deux familles qui habitent près de chez nous, que je connaissais déjà, où on a fait des activités ensemble, des choses comme ça. Typiquement, en hiver, on allait skier pendant que les autres étaient à l'école. Donc, plutôt pour faire des activités que pour faire de l'école. Je n'ai jamais fait de l'école avec d'autres enfants, en fait. Parce que notre fonctionnement me convenait bien. Ça ne prenait pas beaucoup de temps et je n'avais pas forcément envie de prendre plus de temps parce que du coup, on l'intéressait à plus.
Oui. Et du coup, pour toi, alors, tu dis que pour ton aînée, ça a augmenté vraiment la confiance en elle. Puis pour toi, ça t'a apporté quoi ces 3 ans?
Plein de choses. Déjà, je pense que ça m'a aussi augmenté ma confiance en moi parce que j'ai vu que j'étais capable... Enfin, avant ça, il y a toujours ce côté où, mais comment je vais supporter d'être 24 heures sur 24 avec mes enfants? Alors, je précise que je n'étais pas 24 heures sur 24 avec elle quand même. Elle s'était quand même gardée une fois par semaine à part mes parents, une fois par semaine par mon conjoint qui travaille à temps partiel. Et plus ou moins une semaine sur deux par ma belle-mère, parce que moi, je travaillais à côté. Donc, je n'étais pas 24 heures sur 24 avec. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas un souci d'être tout le temps avec mes enfants. Que ça, c'était une fausse croyance. Or, je pense que dépend les enfants qu'on a, ça doit être difficile, je ne dis pas. Mais dans mon cas, ce n'était pas le cas. Il n'y a aucun moment où je me suis sentie envahie ou que j'ai l'impression d'être emprisonnée dans quelque chose qui était peut-être des peurs que j'avais. Parce que mes filles, elles sont très indépendantes. Parce que, comme je disais au début, c'est aussi des choses qui étaient importantes pour moi de leur transmettre. Et cet énorme temps libre qu'elles ont eu, plutôt que de le remplir, comme plein de gens vont faire en faisant plein de choses tout le temps, nous, on ne fonctionne vraiment pas comme ça. On a toujours fonctionné beaucoup sur « ennuie-toi, ça va te faire du bien, c'est comme ça que tu vas développer des compétences, c'est comme ça que tu vas développer ta créativité, etc. » Donc mes enfants, mais déjà depuis avant que je les sorte de l'école, ça peut arriver que je ne les vois pas pendant une demi-journée parce qu'elles sont en train de créer leurs histoires dans un coin. Et puis, donc je ne me suis jamais sentie frustrée de manque de temps pour moi. Et ensuite, réussir à leur transmettre toutes ces compétences et dire « en fait, je suis capable. Je ne suis pas prof, clairement. J'aimerais pas avoir une classe de 20 élèves. Mais avec 2 élèves, je suis capable de leur apprendre des choses. Je suis capable de faire passer ça de manière ludique. Donc, bien sûr que ça... Je pense que c'est gratifiant.
C'est beau ce que tu nous racontes là.
Merci.
Et tes parents, ils ont réagi comment?
Quand j'ai dit que je sortais mes enfants de l'école?
Oui.
Alors, ma maman est une ancienne enseignante. Autant dire que je crois qu'elle a eu un peu peur avec cette décision. Ça allait un petit peu à l'encontre de ce qu'elle a fait pendant de nombreuses années. Donc, elle me l'a dit après. Sur ma maman, elle ne m'a rien dit. Parce que moi, je suis arrivée avec une décision. Je ne suis pas arrivée avec des interrogations. Donc, ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Mais après quoi, elle m'a dit, je me suis vraiment demandé si tu prenais une bonne décision. Mais après, elle était très fière, je crois, de ça. Et puis, elle en a parlé beaucoup autour d'elle, que c'était génial ce qu'on faisait. Donc, c'était plutôt soutenant. Et pour moi, c'était aussi soutenant de savoir que j'avais une maman qui avait été enseignante, puis qui avait plein de ressources si je me sentais coincée quelque part, qu'elle allait pouvoir m'aider.
Et t'as été demandé de l'aide ou...
Au tout début, je lui ai demandé un peu. Puis après, en fait, non plus.
Oui.
Mais au début, oui, pour savoir un peu comment faire, etc. Puis après, j'ai vu que j'arrivais à gérer ça toute seule. Mais le jour où mes enfants étaient gardés par elle... Elle faisait de l'école avec
eux. Ah oui.
Ouais. Ils avançaient dans leur planning hebdomadaire aussi que leur papa et leur grand-maman.
Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent?
Je pense que ce qui est vraiment super important, c'est de se faire confiance en tant que parent. Parce qu'on sait ce qui est bien pour nos enfants. Il y a des fois où on va se tromper. Comme tout le monde, c'est normal, on apprend à être parent en même temps qu'on l'est. On n'a pas appris avant, puis après on maîtrise tout, on apprend tout sur le tas. Donc il y a plein de fois qu'on va expérimenter les choses pour se rendre compte que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave, on va juste changer de direction en fait. Mais faites ce que vous sentez à l'intérieur, vraiment au niveau du ressenti, là, pas de votre tête, qui est juste. Parce que quand on écoute cette petite voix intérieure, ben, en fait, on ne se trompe pas. Même si ça fait peur, même si ça va à l'encontre de ce que les autres pensent ou de ce que les autres font, en fait. Parce qu'on est les plus à même de savoir ce qui est juste pour nos enfants et notre famille.
Merci Nathalie.
Avec plaisir.
Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur parentalitéauprésent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.